France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
À quoi sert l'État ? C'est notre série de cette semaine. Aujourd'hui, l'État pour protéger nos libertés, la pensée de John Locke. John Locke est une figure fondatrice de la pensée libérale, même si la suscité des débats chez les libéraux, nous en parlerons. Né en 1632, Locke était très jeune au moment de la première révolution anglaise des années 1640, mais son père a combattu dans les troupes du Parlement contre le roi Charles Ier. Puis, la supposée République de Cromwell, dictatoriale, n'était pas de son goût. À ce moment-là, de toute façon, Locke était avant tout un jeune homme qui étudiait avec assiduité les grands textes de la tradition philosophique. Thomas Hobbes l'a impressionné, mais il est clair qu'à partir de la fin des années 1660, Locke le regarde comme un sublime adversaire. La souveraineté absolue, qu'elle soit celle d'un roi, d'une assemblée ou de représentants du peuple, est pour lui un danger majeur. À ses yeux, il faut impérativement qu'un certain nombre de droits individuels soient reconnus par le pouvoir, celui-ci s'engageant à ne faire aucune loi qui viendrait les bafouer. Tel est l'État voulu par John Locke. D'où le combat de Locke contre la monarchie absolutiste des Stuarts, ceux-ci étant remontés sur le trône à la mort de Cromwell en 1658. D'autant que John Locke, à partir de 1666, est devenu le secrétaire particulier du comte de Shaftesbury, fondateur du parti d'opposition qu'on appelle le parti Whig. Et ce sont les idées des Whigs, celles de Locke, qui vont triompher lors de la Glorious Revolution de 1688, une révolution moins sanglante que la précédente, une révolution de palais, mais qui verra l'Angleterre sortir de la monarchie absolue pour embrasser la monarchie parlementaire. Captain Blood, ce personnage de fiction incarné par Errol Flynn, qui dans le film de Michael Curtis purge sa peine en Jamaïque, l'apprend inopinément et il saisit bien la différence. Écoutez.
Capitaine, il faut que je vous parle. Écoutez-moi alors, Willoughby. Personnellement, je suis irlandais, mais mon équipage est anglais. Et j'ai été un bon citoyen, moi aussi, jadis. Que dois-je faire d'après vous ?
Il faut vous battre pour votre roi.
Me battre pour le roi ?
Oui, il a été assez généreux pour m'envoyer vers vous. Il est prêt à oublier tout votre passé, à vous libérer de l'esclavage, et qui mieux est, à vous incorporer dans la marine royale, vous et vos hommes.
Cela vous regarde aussi, mes enfants. Avez-vous envie de servir le roi ?
Même si vous détestez le souverain, l'Angleterre est l'Angleterre.
Et un mauvais roi est un mauvais roi. Il n'y en a pas de pire que Jacques II.
Jacques II ? Mais c'est Guillaume III qui vous fait cette offre.
Guillaume III ? Qui est Guillaume III ? Et où est-il roi ?
Moi, je vous parle de Sa Majesté Guillaume III, prince d'Orange, qui, avec la reine Marie, est venu des Pays-Bas et règne sur l'Angleterre depuis au moins 3 mois.
Alors vraiment, ils se sont soulevés et ont chassé cette brute de Jacques II ?
Oui, il s'est sauvé en France et il se cache là-bas. L'Angleterre et la France sont en guerre. Le peuple anglais en supporte plus que tout autre, mon cher. Mais quand il en a assez, ma foi, il en a assez.
Et c'est Guillaume III qui vous envoie ?
Oui, il vous sait des hommes braves, condamnés injustement. Et il a besoin d'hommes braves pour sa flotte.
Mais qu'est-ce que vous attendiez pour nous mettre au courant de cette histoire ? Vous ne pouviez pas nous raconter ça dès le début ?
Préparez-vous pour la bataille !
Jacques II, en effet, a quitté le trône lorsque sa fille Marie Stuart a débarqué des Pays-Bas avec son époux Guillaume d'Orange. Une nouvelle dynastie monte sur le trône d'Angleterre. Un an après, les parlementaires prononcent une déclaration des droits individuels, le Bill of Rights de 1689. Et encore un an plus tard, en 1690, John Locke publie ses 2 traités du gouvernement. Bonjour Jean-Fabien Spitz.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre œuvre en philosophie politique est importante. Et vous avez proposé une nouvelle traduction qui fait autorité du second traité du gouvernement de John Locke. Et je crois que vous pourriez nous apporter d'ores et déjà des précisions sur sa date de rédaction. Tout cela paraît juste après la révolution dite glorieuse, mais en vérité, ça a été écrit quand ?
Oui, alors, il y a eu des débats absolument interminables sur la date à laquelle le texte a été rédigé. Le manuscrit a disparu, donc beaucoup de mystères subsistent, mais Les recherches d'un érudit anglais qui s'appelle Peter Laslett ont prouvé, à la satisfaction de la quasi-totalité des chercheurs aujourd'hui, que la rédaction du texte date de 10 ans avant la Révolution, c'est-à-dire du moment qu'on appelle la crise de l'exclusion, au moment où il était question de la succession au trône d'un monarque catholique, parce que Jacques II était catholique. Le traité aurait été rédigé pour établir que le peuple anglais a le droit de choisir son monarque et de ne pas subir un héritier qui n'aurait pas son aval, en particulier à cause de la religion à laquelle il adhérait et qui faisait de lui, étant catholique, un adepte absolument convaincu de l'absolutisme. Donc le texte porte la marque de la crise de l'exclusion, marquant le droit d'un peuple à désigner celui qui va le gouverner, plus que la marque d'une révolution déjà achevée. C'est un programme et non pas un compte-rendu de ce qui vient de se produire.
Entendu. Bonjour Vincent Valentin. Vous êtes avec nous aussi ce matin, professeur à Sciences Po Rennes, spécialiste de la pensée libérale. Dans toutes ces mouvances, vous nous expliquerez à quoi sert l'État selon John Locke et quel débat entoure cette œuvre. Ma première question pour vous deux est celle-ci. Se donner une limite, que l'État, le souverain, dirait Hobbes, mais pour lui le souverain avait une puissance illimitée, l'État, pour Hobbes, doit se donner une limite, c'est la marque de la sensibilité libérale, la limite à donner au pouvoir. Vincent Valentin ?
Oui, sur Locke en réaction à Hobbes, peut-être, enfin... vous évoquiez le contexte et ça vient d'être fait. Il est vrai qu'on peut facilement s'engager pour dire que le problème auquel répond Hobbes, c'est plutôt celui de la sécurité, issu des guerres civiles, des guerres religieuses. Et puis quelques années après, celui de Locke, c'est peut-être plutôt de limiter l'absolutisme catholique. Et donc, ça réoriente sa pensée. Et d'un seul coup, c'est la liberté, et la liberté par la loi, qui devient sa préoccupation.
Alors l'un des points importants... C'est la conception de la propriété, property pour Locke, car on aurait tort de croire que c'est uniquement les biens. C'est le corps, il y a eu un habeas corpus qui a une longue histoire en Angleterre. C'est l'espace privé avec en effet des biens. C'est aussi la liberté de conscience. Donc, chaque fois qu'on lit propriété sous la plume de Locke, Vincent Valentin, il faut faire attention à ne pas tout réduire à l'aspect matériel de la propriété.
Oui, c'est parfois traduit comme domaine propre, le terme property comme domaine propre, et donc c'est effectivement, ça englobe effectivement non seulement les biens matériels qui sont acquis par le travail, ou par l'héritage, mais enfin par le travail, mais derrière ce que l'on acquiert par le travail, il y a l'idée de droit de propriété sur soi. Et donc la propriété matérielle n'est que l'extension de la propriété sur soi, qui est, on pourrait dire, immatérielle. Et dès lors, ça constitue une limite à, évidemment, une saisie par un pouvoir politique quelconque de cette propriété privée. Il y a des limites à cette appropriation privée qui sont posées par Locke et qui ont donné lieu à alors des interprétations multiples, je pense qu'on en reparlera, qui laissent ouverte la question de savoir exactement quelle est la légitimité du pouvoir public à réglementer éventuellement cette propriété privée.
Mais est-ce que vous insistez, vous aussi, Jean-Bernard Spitz, pour que tout de suite... Jean-Fabien, pardon, excusez-moi. Pour dire que la notion de propriété exige des précisions d'emblée chez Locke. C'est aussi l'auteur d'un essai sur la tolérance, d'une lettre sur la tolérance. La question des droits de la conscience le préoccupe. Donc la propriété, c'est complexe chez
Locke. Oui, c'est sûr que c'est un mot, là, qui ça vient d'être dit, qui recouvre des réalités multiples. Les biens matériels, la personne qui est à l'origine de l'acquisition des biens matériels, la liberté de conscience, bien sûr, la réputation aussi, quelque chose de très importante pour Locke. Donc c'est quelque chose d'englobant. La vie aussi, bien sûr, est comprise dans la propriété. Et c'est tout cet ensemble de choses qui est censé être mis à l'abri par l'institution d'un pouvoir politique. Mais il faut pas non plus trop insister sur cette acception large du terme, parce qu'il y a un chapitre quand même dans le second traité du gouvernement qui s'appelle « De la propriété » et qui est spécifiquement consacré à l'acquisition des biens matériels.
Donc, c'est très important. Mais la vie aussi, alors c'était le problème de Thomas Hobbes, la conservation de soi. Sans doute d'ailleurs, pas uniquement la vie, mais enfin d'abord la vie. De ce point de vue-là, quelle est la position de Locke sur, sur ce qu'on appelle la nécessité de passer à un état civil avec une force politique instituée. Est-ce que c'est pour protéger les mêmes choses qui préoccupaient Hobbes?
Je crois qu'il faut, il faudrait se défaire un tout petit peu de l'idée que Locke a écrit pour répondre à Hobbes, parce que c'est pas du tout le cas.
Alors expliquez-moi.
Et en particulier parce que le contexte de sa pensée est tout à fait différent. Hobbes, c'est quelqu'un qui pense à l'écart de prémices théologiques et pour qui le droit à la vie, c'est le droit de persister dans le désir que l'on a de demeurer vivant. Alors que Locke, c'est une approche tout à fait différente. L'homme est une créature divine et il a une obligation de préserver sa propre existence. C'est pas un désir, c'est une obligation. Donc c'est dit en termes de devoir et les droits dérive des devoirs, alors que chez Locke, c'est l'inverse. Les droits sont premiers, ils n'ont pas d'assise théologique, ils ne sont pas assis dans des devoirs. Et donc chez Locke, l'idée que chacun a un droit à la préservation de sa vie dérive du fait qu'il n'en est pas le propriétaire premier, parce que le premier propriétaire de son existence, c'est le Créateur, qui lui impose de conserver sa propre vie, et, chose importante, qui lui impose aussi de conserver la vie de tous les autres êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité absolue de la conservation de ma propre vie sur celle des autres. C'est une priorité, bien sûr, je n'ai pas à céder ma propre vie pour conserver celle d'autrui, mais j'ai une obligation de conserver celle d'autrui exactement de la même manière que j'ai l'obligation de conserver ma propre existence.
Au chapitre 6 du second traité, Locke écrit en effet que chacun est tenu de se conserver soi-même. Ça, c'est... Alors, je sais bien qu'il ne lui répond pas directement. Enfin, c'est clairement du Hobbes aussi. On peut dire qu'il dit la même chose. Mais lorsque c'est fait, lorsque ma propre préservation n'est pas en jeu, écrit Locke, donc à l'état de nature, avant tout pouvoir politique institué, je dois aussi préserver le reste du genre humain.
Oui, ce que Hobbes n'aurait pas écrit.
Voilà. C'est le vrai apport pour vous, Vincent Valentin. L'autrui existe pas seulement comme source de crainte pour Locke à l'état de nature, mais aussi comme source d'affect et de sentiment d'un respect, d'une obligation.
Oui, et c'est pour cela que Locke, qui écrit quand même bien avant que le terme libéral existe et que la doctrine libérale se développe, peut être considéré ou est repris comme un héritier, comme un fondateur, pardon, du libéralisme. C'est en raison de cette conception de l'état de nature, donc la situation avant l'état, en fait, ou sans l'état, ou indépendamment de l'état, dans lequel une loi naturelle existe, c'est-à-dire un principe de justice qui peut réunir les hommes. Et c'est pour cela aussi, c'est un autre aspect important de la distinction entre Hobbes et Locke, qu'ils n'ont pas du tout la même conception de cet état de nature. C'est-à-dire que chez Locke, bien sûr, c'est incomplet, il faudra un magistrat, on y reviendra, il faut un état, il faudra des fonctions juridiques, mais pour Locke, finalement, l'état de nature, c'est, dit-il, un état de parfaite liberté et égalité. C'est un état de paix, de bonne volonté, d'assistance mutuelle, de conservation. Et donc, c'est très important parce que ça signifie que l'État n'a pas besoin de créer la société, de garantir même l'existence de la société. Chez Locke, la société existe sous la loi naturelle, de manière spontanée, dira beaucoup plus tard Hayek ou les Anglais, les Smith et compagnie un peu après lui. Et donc cette société existe sans l'État. Donc l'État devra être au service de cette société plutôt que le fondateur presque de cette société, comme dans le schéma absolutiste. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que cette perception de l'état de nature est très importante pour distinguer les deux auteurs, mais qu'elle est liée à l'existence, au type de fondation du droit. Effectivement, chez Hobbes, c'est fondé sur le désir qui crée des conflits qui doivent être résolus par un Léviathan, alors que chez Locke, ce qu'il fonde, c'est la reconnaissance par tous les individus qu'il existe une loi naturelle, des principes sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord, qui structurent la société, notamment autour du droit de propriété.
Alors, comme on l'a vu hier, Jean-Fabien Spitz, chez Hobbes, mais enfin, on va dire en anglais, the people, c'est le pluriel de person, donc c'est un pluriel. Il y a une multiplicité d'abord. Est-ce qu'on peut dire, je sais bien, j'ai entendu que Locke ne fait pas que répondre à Hobbes, mais nous pouvons orchestrer nous ici ce débat. Hier, nous avons vu que pour Hobbes, la multiplicité ne peut jamais être une naturellement. Il lui faut un représentant, un visage un. Elle ne se présente pas de manière une. S'il y a de la société déjà, des liens entre nous à l'état de nature pour Locke, est-ce que, justement, on peut dire que le multiple n'est pas l'enfer chaotique de Hobbes, mais est déjà un peu un?
Alors, c'est compliqué parce que... C'est compliqué parce que Locke est quelqu'un qui pense que effectivement, il y a une forme de système d'obligation naturelle qui lie, le mot est à mettre entre guillemets, les hommes dans une condition naturelle. Les hommes sont liés les uns aux autres par un système d'obligation qui leur est imposé par une loi supérieure, divine. Mais le problème, c'est que chacun est pour lui-même l'interprète de cette loi. En sorte qu'il y a du lien, et en même temps, il n'y en a pas, car oui, chacun est à la disposition de sa propre conscience et est en charge de recevoir d'en haut les principes de cette loi naturelle, et d'en donner l'interprétation qui lui convient. Et comme ces interprétations ne coïncident pas, ou pas nécessairement, dans la condition naturelle, disons, l'unité de la loi donne lieu à une multiplicité d'interprétations, et c'est moins une multiplicité de désirs qui s'affrontent qu'une multiplicité de consciences qui lisent différemment une loi unique. Donc il y a de l'unité et de la multiplicité en même temps dans l'état de nature pour Locke. Les hommes sont unis par une loi qui est la même pour tous, oui, mais en même temps, comme chacun l'interprète à sa porte,
il y a du conflit. On pourrait dire comme ça. Il y a du conflit.
Il y a du conflit qui n'est pas
la guerre,
qui n'est pas nécessaire, mais qui est toujours possible. C'est-à-dire la divergence d'interprétation peut toujours intervenir parce que les individus sont des êtres de passion et qu'ils sont gouvernés par leurs propres intérêts et qu'au lieu de lire la loi avec un regard impartial, ils la lisent à l'aune de leur propre situation dans le monde et de leurs intérêts.
Donc ils s'arrangent entre eux, il y a quand même de la vie sociale, mais on éprouve le besoin de sortir de l'état de nature. On n'y est pas très très bien. Alors cette difficulté qui fait que tout de même il faut passer à l'état civil, elle est au cœur notamment des paragraphes 123, 124, 125 du deuxième traité du gouvernement de John Locke. Écoutez cet extrait.
Si l'homme dans l'état de nature est le maître absolu de sa personne et de ses possessions, s'il est l'égal des plus grands et s'il n'est assujetti à personne, pourquoi renoncerait-il à sa liberté? Pourquoi abandonnerait-il cet empire pour se soumettre lui-même à la domination et au contrôle d'un autre pouvoir? La réponse est évidente, c'est que s'il possède bien un tel droit dans l'état de nature, étant donné que tous sont rois autant que lui, que chacun est son égal et que la plupart n'observent pas strictement l'équité ni la justice, la jouissance de la propriété qu'il détient dans cet état est très incertaine et fort peu garantie. La fin essentielle que poursuivent des hommes qui s'unissent pour former une république et qui se soumettent à un gouvernement, c'est la préservation de leur propriété. Or, bien des choses manquent dans l'état de nature pour atteindre cette fin. En premier lieu, il manque une loi établie, stable et reconnue, reçue et avouée par le consentement commun pour la norme du droit et du tort et pour la mesure commune permettant de trancher tous les différends surgissant entre eux. En second lieu, dans l'état de nature, il manque un juge reconnu et impartial, qui est autorité pour trancher tous les différends en accord avec la loi établie. En troisième lieu, ce qui manque souvent dans l'état de nature, c'est le pouvoir d'appuyer et de soutenir une sentence lorsqu'elle est juste, et de lui donner l'exécution qui lui est due.
À quoi sert l'État? C'est notre série cette semaine. Nous avons parlé de Thomas Hobbes hier, l'État pour survivre. Aujourd'hui, John Locke, l'État pour protéger nos droits. L'état de nature, qui est une fiction commune aux deux auteurs, nous montre donc, nous devons lire un texte important de Locke, Jean-Fabien Spitz, nous montre que l'état de nature, contrairement à Hobbes, chez Locke, il est quand même possible, mais beaucoup de choses manquent, c'est le verbe employé. Donc c'est tout de même souhaitable d'en sortir.
Non seulement c'est souhaitable, mais c'est indispensable, parce que, d'une certaine manière, Locke le reconnaît bien, même si il y a une loi commune, les interprétations sont nécessairement divergentes. Et dans la mesure où chacun est ce que Locke appelle l'exécuteur de la loi de nature, le fait que les interprétations soient différentes conduisent à des conflits qui sont insolubles. Et donc l'idée de Locke, c'est que ce dont on a besoin, c'est pas d'une loi commune, mais d'une loi qu'il appelle établie. C'est-à-dire qu'on écrive le texte de la loi quelque part et que cela fasse référence. Et on a un pouvoir législatif qui établit des lois qui sont une interprétation reçue et autorisée de la loi de nature. Il faut en plus un arbitre, un juge qui arbitre les différends possibles entre les individus sur l'application de cette loi. Et puis, il faut un pouvoir coercitif qui mette les décisions du juge en application. Si vous avez ces trois éléments, une loi stable, un arbitre impartial, un pouvoir exécutif qui fait exécuter les décisions de l'arbitre impartial, vous êtes sorti de la divergence des interprétations de la loi naturelle et vous êtes entré dans ce que Locke appelle un état civil gouverné par des lois stables et reconnues qui sont arbitrées par un juge impartial, c'est un problème, mais un juge impartial, et exécutées par un pouvoir qui dispose du monopole de la force de coercition, c'est-à-dire que dans l'état civil, les individus n'ont plus le pouvoir d'exécuter par eux-mêmes la loi de nature, ils y ont renoncé. Et l'état civil se définit par le fait que les individus ont renoncé, on va le voir peut-être tout à l'heure, non pas au pouvoir d'interpréter par eux-mêmes la loi de nature, mais au pouvoir de la mettre en application. Ça, c'est devenu interdit. Je ne suis plus l'exécuteur moi-même de la loi, bien que je puisse demeurer juge, on va en parler peut-être tout à l'heure.
Alors, on va quand même crever un abcès qui est terrible pour les traducteurs et les spécialistes de philosophie politique. Il dit dans ce texte, Locke, Commonwealth, que vous traduisez par République, qui est assez naturel. Peut-on quand même préciser que Locke désire, me semble-t-il, une monarchie parlementaire ? Comme d'ailleurs Montesquieu, qui, 70 ans plus tard, commentera dans l'esprit des lois la Constitution d'Angleterre, quand même matinée d'esprit Whig, et il dit, alors lui, pour le coup, il pense que c'est beaucoup mieux une monarchie parlementaire qu'une république. C'est difficile, mais je crois que c'est important pour que les éditeurs comprennent les questions qu'on se pose quand on traduit.
Je pense que c'est une question qui est un tout petit peu secondaire quand même, parce que l'idée de Locke, c'est que nous avons besoin d'un pouvoir commun. Sa forme instituée, monarchie, république, aristocratie, est une question qui peut être importante dans certaines circonstances, en particulier lorsque un État a besoin d'une rapidité d'exécution, et il est mieux qu'il dispose d'un monarque ou d'un pouvoir qui est constitué d'une seule personne. Mais la forme du gouvernement est une question relativement secondaire. Ce qui compte, c'est le type de relation qui existe entre les citoyens et la puissance publique.
Peut-être les sujets, d'ailleurs, parfois, plus que les citoyens.
Les citoyens. Entre les citoyens et la puissance publique. Et ce type de relation se caractérise non pas par une délégation irréversible, mais parce que Locke appelle un trust, une mission de confiance. Autrement dit, les citoyens confient à une puissance publique, quelle qu'en soit la forme, au fond, la mission de protéger leurs propres droits et libertés.
Qu'ils aient par ailleurs une égalité de vote ou pas, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans l'Angleterre monarchique libérale. Tout le monde n'a pas le même poids en termes de vote, ce n'est pas le problème.
C'est une relation fonctionnelle. C'est-à-dire, le pouvoir est institué en ayant pour fonction d'exercer cette mission de confiance qui consiste à protéger les individus les uns contre les autres.
Et ceci
à préserver
également,
leur droit.
Pour le coup, leurs droits civils doivent être tout à fait également protégés, même si leurs droits politiques ne sont pas tout à fait les mêmes.
Oui, alors les femmes sont exclues.
Hein. Oui,
peut-être aussi exclu d'autres catégories. C'est très très discuté ça, sur la question de savoir si seuls sont citoyens, parce que le mot est important. Ceux qui sont susceptibles de posséder une propriété qui leur confère une certaine forme d'indépendance, qui exclurait les servants, les serviteurs. C'est une question très très discutée aussi. On ne sait pas si Locke était partisan d'accorder des droits civils à l'ensemble des individus qui habitent le territoire, ou si cette fonction, disons, d'exercer la qualité de citoyen était réservée aux propriétaires, voire même aux chefs de famille. Les femmes, en l'occurrence, si elles sont chefs de famille, peuvent posséder cette qualité de citoyen.
Bon, donc il y a donc pas mal de problèmes historiques. En tout cas, aussi bien Locke que Montesquieu seront lus par les républicains américains, avec une lecture très républicaine qui viendra pour fonder la République américaine. Vincent Valentin, revenons à l'état de nature. Y a-t-il des libéraux qui sont plus sympathisants de l'état de nature que Locke lui-même, qui pensent que l'ordre spontané c'est pas si mal. Il faut certes fonder l'État, mais quand même, il y a des vertus que l'État ne devra pas oublier, des vertus de l'ordre spontané, naturel.
Locke pose tout un tas de principes qui vont évidemment fonder une conception libérale du pouvoir. Et donc, il est très facile pour les libéraux de se réclamer de lui parce qu'il met en avant des droits naturels, déduit de la loi naturelle. Ça pose un problème, parce que est-ce que c'est objectif ou subjectif? Est-ce que c'est libre d'interprétation ou pas? Mais enfin, quand même, des droits de l'individu, le droit de propriété qui existe sans convention. C'est-à-dire que c'est un droit naturel, véritablement. On n'a pas besoin de l'accord de qui que ce soit pour devenir propriétaire de ce qu'on cultive, de ce qu'on travaille. Le constitutionnalisme libéral avec la distinction des trois pouvoirs, la séparation entre le politique et le religieux à travers ces textes sur la tolérance. On pourrait rajouter d'autres choses, et notamment ce que vous venez d'évoquer, l'idée finalement que la société a une substance qui est indépendamment de l'action du pouvoir politique. Voilà. Donc évidemment, tout ça fait qu'il est très facile, pour les libéraux, de considérer que Locke est leur père fondateur, à poser tous les principes de la suite. À mon avis, Locke, si vous voulez, au moment où il écrit, a une préoccupation qui n'est pas du tout celle de l'arbitrage entre libéralisme et socialisme ou quelque chose comme ça.
Alors qu'on va l'utiliser
pour arbitrer, pour régler ce conflit-là plus tard avec les libéraux, 19e, puis les libertariens, voilà. Donc, je pense que la question de Locke est celle de limiter encore une fois le pouvoir absolu. Alors. Et donc de mettre des droits, le droit à la vie privée, on dirait presque aujourd'hui, pour le domaine propre, à l'abri du pouvoir politique. Pour ce qui est de la substance de l'ordre spontané, bon, il n'utilise pas l'expression, mais il y a une petite phrase comme ça dans le second traité, où il dit en substance, hein, c'est pas littéral, peut-être que Jean-Fabien Spitz pourra m'aider, qu'il évoque l'hypothèse anarchiste. Et il dit qu'on n'a jamais pu le convaincre que l'état de nature... qu'il écartait l'anarchie, sauf à le convaincre, ce qui lui semble impossible, en gros, que l'état de nature et l'état civil peuvent être équivalents. Donc, il écarte la possibilité.
Il veut quand même un État.
Ouais. Sauf que beaucoup de libéraux et libertariens vont interpréter ça en disant, vous voyez, finalement, Locke avait conscience que si on lui prouvait qu'une société autorégulée pouvait fonctionner, voire qu'une anarchie capitaliste pouvait fonctionner, eh bien, ce serait un système ultralibéral qui serait le plus conforme à sa pensée. Donc, ça a produit une interprétation de Locke dans ce sens-là. Finalement, l'État n'a pas à se mêler de la société. D'ailleurs, si on revient sur le texte qui a été lu, vous voyez, ce qui est frappant, c'est que la fonction du gouvernement, finalement, est d'être au service de la loi naturelle et du droit de propriété. On n'évoque pas une fonction de gouvernement de la société à proprement parler, ou de réforme de l'ordre social, ou d'imposition d'un bien commun aux individus. Ça n'est pas dit comme ça. Donc évidemment, pour les libéraux, c'est du pain béni, parce que ça veut dire que...
On laisse les gens se débrouiller avec ce qu'ils sont.
L'État n'a qu'à garantir les possessions, au sens large, ce qui permettra une interprétation éventuellement républicaine, mais enfin, il n'a qu'à s'occuper de ça, et donc il n'a pas réformé l'ordre social, l'ordre des propriétés, de manière importante.
Vous nous apprenez qu'il y a une fibre anarchiste. Chez certains libéraux, je me permets de dire que notre épisode de jeudi, le quatrième, posera la question de la pluralité des anarchismes. Vous parlez peut-être de Nozick au XXe siècle, État, anarchie et utopie. Vous parlez... Parce que Hayek, qui est très radical et qui parle d'ordre spontané, veut quand même de l'État. On est d'accord,
ah oui,
l'État
oui, minimal. C'est sûr. Chez Hayek, qui se dit Old Whigs, d'ailleurs, donc... C'est une référence au climat dans lequel est John Locke. Oui, Hayek veut un État, c'est certain, il n'est pas anarchiste, il ne va pas dans cette direction dans laquelle il verrait un optimisme presque délirant, quoi. Mais il y en a d'autres, oui.
Donc la discussion sur l'État est très complexe au sein des anarchistes et au sein des libéraux. C'est le moins qu'on pouvait espérer pour une série intitulée « À quoi sert l'État ?». Je vous propose d'écouter un deuxième extrait du second traité du gouvernement de Locke, où là, on a vraiment l'impression qu'il répond à Hobbes. Il dit à quel point c'est absurde lorsqu'on a envie de sortir de l'état de nature parce qu'il y a des conflits, voire des guerres, de se mettre dans la gueule d'énormes lions. C'est vraiment la façon dont Hobbes concevait l'État, qui est vraiment tout puissant. Écoutez cet extrait de Locke.
«
Demandez donc quelle sécurité et quelle protection existent dans une telle république contre la violence et l'oppression du prince absolu. La question même est à peine tolérée. On est tout prêt à vous dire que le seul fait de réclamer des garanties mérite la mort. On vous accordera qu'il doit exister entre un sujet et un autre sujet des lois, des juges et des mesures prises en vue de leur paix et de leur sécurité mutuelle. Mais quant au prince, il doit être absolu et au-dessus de toutes ces réglementations. Et parce qu'il possède le pouvoir de causer plus de mal et plus de tort, il est dans son droit lorsqu'il le fait. Demander alors comment on peut se protéger contre le mal et l'injustice venant de celui qui possède les plus grandes forces pour les commettre, c'est aujourd'hui faire entendre la voix des factieux et des rebelles. Comme si, en quittant l'état de nature pour entrer en société, les hommes étaient convenus que tous seraient assujettis aux lois à l'exception d'un seul, qui conserverait toute la liberté qu'il possédait dans l'état de nature, augmentée grâce au pouvoir et transformée en licence grâce à l'impunité. Ce serait penser que les hommes sont assez fous pour prendre soin d'échapper aux maux que peuvent causer les putois et les renards, mais qu'ils s'estiment satisfaits et qu'ils s'imaginent même que c'est une sauvegarde d'être dévoré par des lions.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Il faudrait être fou pour vouloir rationnellement un État tout-puissant comme celui de Bodin, de Hobbes, Jean-Fabien Spitz. Là, c'est cette ironie de Locke est-elle adressée tout de même, d'après vous, à ses auteurs?
Si on veut... lorsque Locke a écrit, son adversaire principal était Filmer.
Oui.
Et Filmer avait écrit un texte qui accusait les monarchies mixtes, donc les monarchies assorties de garanties qui protégeaient les citoyens, avait qualifié ces monarchies mixtes en disant que c'était une forme d'anarchie. Mmh. Et Locke, lui, dit comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Dans un État où les citoyens cherchent à protéger leurs droits de propriété, leur vie, leur existence, et puis ce qu'ils ont acquis, comment voulez-vous qu'il en soit autrement que on ait affaire à une certaine forme d'anarchie, c'est-à-dire que chacun demeurant le maître de poser les principes qui doivent être respectés à son égard, peut certes déléguer à un pouvoir, à un gouvernement, le soin de prendre soin précisément des libertés qui sont les siennes, mais ce pouvoir demeure en permanence sous la surveillance des consciences et des raisons individuelles qui sont en permanence amenées à juger si oui ou non le pouvoir qui a été délégué agit conformément ou non à sa mission. Et c'est cette espèce de surveillance continue que les citoyens exercent sur celui à qui ils ont délégué la puissance publique, c'est cette surveillance continue qui constitue la liberté pour Locke. C'est-à-dire, le pouvoir est sous le regard, sous la conscience, sous la raison, sous le jugement, non pas du peuple considéré comme une entité, qui n'existe pas pour Locke, mais sous la surveillance des consciences et des raisons individuelles. Chacun jugeant pour lui-même si le pouvoir applique à son égard les règles qu'il doit appliquer, qui sont celles de la loi naturelle. Et c'est ça qui est l'essence de la liberté, la surveillance d'une mission qui a été confiée à un pouvoir. Et donc, jamais, au grand jamais, le pouvoir politique, pour Locke, n'est l'objet ou le bénéficiaire d'une délégation de puissance. Jamais. Il est simplement un exécutant, il est simplement un serviteur. Et Locke reprend cette expression de serviteur qui est issue des monarchomaques français du XVIe siècle pour dire que le pouvoir est au service des citoyens. Il n'est jamais leur maître. Alors que chez Hobbes, il se perçoit comme étant leur maître, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble sans avoir un maître commun, faute de quoi on se mangerait les uns les autres. Locke pense que précisément, non seulement on peut, mais on doit vivre ensemble sans avoir un maître commun. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas de maître commun que nous nous mangerons nécessairement les uns les autres, car nous sommes capables de déléguer à une puissance publique le soin de préserver notre liberté, tout en maintenant cette puissance publique sous le regard permanent de la conscience et de la raison des citoyens qui surveillent que cette puissance publique agit bien conformément à son trust. C'est ce qui donnera ensuite naissance à l'idée que les citoyens se mettent d'accord sur une constitution à laquelle celui qui exerce le pouvoir est soumis. Mais Locke n'a pas franchi ce pas. C'est-à-dire
il ne dépose pas
le jugement des individus dans un texte qui est censé faire l'unanimité. La raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est que la question de l'unanimité est extrêmement complexe et il conserve le principe que chacun est juge pour lui-même. Et donc, l'idée de Locke, c'est qu'il n'y a jamais de souveraineté dans un état civil correctement constitué. Il n'y a jamais de maître dont la parole vaille a priori comme l'interprétation correcte ou adéquate
de la loi. Il faut un pouvoir qui ne soit pas, il l'assume, souverain en tout cas, tel que Bodin et Hobbes ont défini la souveraineté, c'est-à-dire dans son illimitation, c'est hors de question. Mais ça veut dire qu'il a beau être un peu sceptique sur nos relations avec autrui, qui peuvent être à notre égard des putois et des renards qui viennent dans nos terriers, des polecats et des foxes, il dit, calmons-nous. On ne va pas pour autant renoncer à tous nos droits et tout donner à des lions comme toute une tradition politique bodino-hobbesienne le souhaite.
Bien sûr, mais la question est moins celle de la puissance que celle de la définition de cette puissance. Ce que Locke a constamment refusé, c'est l'idée que la volonté d'une personne, quelle qu'elle soit, puisse valoir comme loi pour tous les individus sans contestation. C'est une maxime médiévale qui dit « stat pro ratione voluntas ». Pourquoi devez-vous obéir ? Parce que je le veux. Ça, c'était exclu. C'est exclu. En aucun cas, la République lockienne, si on veut, ou l'État civil lockien, n'est sous la domination de quelqu'un dont la volonté fait loi sans contestation possible. Et c'est ça qui le différencie, disons, d'une tradition antérieure beaucoup plus autoritaire.
Donc la volonté ne fait pas toujours loi. Encore faut-il qu'elle respecte la volonté souveraine, enfin étatique, ou politique, publique, qu'elle respecte des choses qu'elle a d'ailleurs déclarées, Vincent Valentin. Donc là, les libéraux, ils sont très contents, bien sûr. C'est exactement ce qu'ils pensent. Néanmoins, parfois, Locke reconnaît que dans une assemblée souveraine, comme on dit, il faut prendre des décisions. Et il admet quelque chose qui va horrifier certains libéraux. Il reconnaît que des décisions, même des décisions touchant l'impôt, donc la propriété, peuvent être prises par une assemblée à la majorité. Pourquoi est-ce un scandale de dire une chose pareille pour certains libéraux ?
J'aurais du mal à identifier des libéraux qui jugent que ce principe majoritaire est scandaleux chez Locke, parce qu'il est quasiment immédiatement limité. Enfin, c'est même pas un problème de succession, c'est en même temps. Hein, il est limité par le respect de la loi naturelle, d'une certaine façon. Donc, les libéraux vont considérer que, puisqu'il y a un droit de résistance, puisqu'il y a cette loi naturelle qui, comme le disait Jean-Fabien Spitz, est finalement intériorisée par les individus, peut-être pas tous d'accord, mais enfin qui quand même sont acquis, si vous voulez, à ces principes-là, puisque donc la véritable constitution d'une nation est plus dans la conscience et la raison de ses membres que dans la volonté du prince, et bien pour toutes ces raisons-là, finalement, chez Locke, le principe majoritaire serait immédiatement borné par le respect de la loi naturelle et des
droits. Oui, mais ça voudrait dire qu'on reprendre son droit naturel et résister, ça veut dire sortir du pacte social. Donc, je faisais référence à Wilmore Kendall en 1965, un auteur qui a écrit John Locke and the Doctrine of Majority Rule. Et c'est vrai que l'idée qu'on puisse fixer l'impôt par décision majoritaire, on ponctionne la propriété privée, il y a quand même pas mal de libéraux qui sont contre l'impôt, point. Et le fait qu'on puisse faire tout un tas de choses de cet ordre à la majorité d'une assemblée, c'est... Ben vous venez de le dire, certains libéraux disent « Non, merci, nous on reprend nos billes et on sort du pacte social. » C'est pas possible pour eux, ça.
Oui, alors Spencer avait dit, du 19e, qu'il fallait s'opposer à la volonté parlementaire comme on s'était opposé à la volonté monarchiste. Donc le vrai problème des libéraux, c'est de protéger à la fois l'autorégulation sociale et un certain nombre de droits de l'individu contre tout pouvoir. Donc évidemment, la majorité parlementaire est une menace possible. Mais il me semble que quand on lit Locke, on ne voit pas du tout une autorisation de la majorité à décider de tout et de n'importe quoi. Il y a d'abord une limite si on suit les principes de Locke. Alors bien sûr, s'il met en place des institutions, après elles peuvent s'éloigner de ses propres principes. Ben, il y a ça d'abord, et puis ensuite, oui, il y a cette reconnaissance de la résistance, du droit de sortir de l'obéissance. Donc
quand même ça va. Je pensais qu'ils étaient plus fâchés avec Locke, les libéraux.
Non, mais
il y a la prérogative royale aussi de l'exécutif qui pourrait les énerver. Il y a d'autres choses.
Alors là, c'est une. vous soulevez une question très intéressante qui est de savoir ce que l'on fait des principes de Locke. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'intéresse à Locke dans son temps? Et donc dans une époque où, oui, peut-être que ces principes n'étaient pas immédiatement les nôtres, ou est-ce que on extirpe de ces écrits des principes que l'on peut utiliser, si vous voulez. Alors évidemment, Locke écrit à une époque qui n'est pas du tout la nôtre, en termes de conception de l'égalité, etc., des contre-pouvoirs. Mais enfin, je trouve qu'il en fait pas mal, quand même, pour son temps. Je ne considère pas que le principe majoritaire pose un vrai problème chez Locke. Oui. D'autant plus que, je laisse la parole à Jean-Fabien Spitz, il y a quand même un problème d'interprétation de cette loi naturelle. C'est-à-dire que, pas d'interprétation complète, parce qu'elle a une sorte d'objectivité, qui s'impose en conscience, mais il faut quand même se mettre d'accord sur la loi établie. Donc il y a là la nécessité d'un Parlement qui tranche, d'une certaine façon.
Donc vous êtes d'accord, Jean-Fabien?
J'irai encore plus loin, parce que c'est là que le principe majoritaire, c'est un principe pragmatique. Si vous voulez décider en commun, vous n'avez pas d'autre solution que d'emprunter le principe de la majorité. Si vous voulez le principe de l'unanimité, ou même une majorité des deux tiers, ou une majorité supérieure à la moitié, vous n'y arriverez pas. Donc c'est un principe pragmatique. Si vous voulez décider ensemble, vous devez employer la majorité. Mais jamais Locke ne dit que la voie de la majorité est la voie du droit sans contestation possible. C'est-à-dire que même si une loi est votée par une majorité, eh bien j'ai le loisir, en tant que citoyen, de dire que cette loi viole les principes de la loi naturelle et d'appeler à la résistance. Évidemment, si je ne suis pas suivi, il ne se passera rien. Mais si je suis suivi par un très grand nombre de gens, sans qu'il soit question de calculer s'ils sont plus nombreux que ceux qui sont favorables au maintien de la loi, alors il y aura un acte de résistance. La majorité n'est jamais souveraine. Il n'y a pas de principe de souveraineté. D'ailleurs, il n'y a pas de principe de souveraineté dans l'État lockien, dans la société lockienne. Et je pense qu'il faut aller un peu plus loin, si vous me permettez.
Je vous en prie.
Parce que Locke se heurte à une contradiction qui est très claire et qui est très visible dans le texte. Il dit, passer à l'État civil, c'est se gouverner ensemble par des lois établies, sûres et reconnues. Donc il y a une puissance publique qui établit des lois. Mais en même temps, il dit, lorsqu'on prélève l'impôt, chacun doit consentir à l'impôt qui est prélevé sur ses biens. Ce qui veut dire que l'obligation d'obéir à la loi est subordonnée à l'accord de chaque individu, ce qui est contradictoire. Donc, soit il y a des lois et vous êtes tenu d'obéir quel qu'en soit le contenu, soit vous avez la liberté de désobéir à la loi parce que vous pensez que les prélèvements qui sont opérés sur votre propriété sont trop importants, mais à ce moment-là, il n'y a plus d'état civil. Et Locke est en permanence pris dans cette contradiction. C'est-à-dire que il veut de l'institution, mais une institution faible et contestable. Il veut de l'institution, mais de l'institution non souveraine. Il veut de la loi, mais de la loi qui n'est pas irrésistible. Et c'est un problème. Et c'est pour ça que, au fond, ça demeure un anarchiste, quelqu'un qui est partisan de l'autonomie radicale de l'individu. Alors, je ne suis jamais soumis sans réserve. Jamais.
D'ailleurs, si je peux me permettre, il évoque la possibilité d'une dissidence. Il dit qu'après tout, parce que c'est compliqué, le consentement, il se rend bien compte qu'il est tacite dans la réalité d'une vie sociale. Mais donc, il évoque la possibilité d'une dissidence, c'est-à-dire qu'on des individus pourraient ne pas rentrer dans le pacte social. Mais alors, ils perdraient tous leurs droits, ils seraient plus protégés. Mais enfin,
c'est l'état de nature.
Et donc, des libertariens, puisqu'on en parlait tout à l'heure, vont tirer ça aussi vers l'anarchie en disant, vous voyez, ils reconnaissent et ils vont même réclamer ce droit à la dissidence dans nos sociétés. En gros, on choisirait les impôts qu'on paye, on choisirait notre forme d'allégeance au pouvoir commun.
Alors, nous venons parler de la règle de la majorité et du problème du consentement qui peut être retiré, comme vous l'avez dit l'un et l'autre chez Locke. Donc je vous propose de lire successivement un texte des paragraphes 95-96 du deuxième traité sur cette règle de la majorité et d'enchaîner immédiatement par un texte parmi les nombreux extraits possibles du fameux dernier chapitre de Locke, chapitre 19, sur le droit de résistance au pouvoir. Finalement, ça me paraît cohérent avec le mouvement même de vos analyses. Écoutons les deux.
Quand un certain nombre d'hommes ont consenti à former une communauté ou un gouvernement, ils se trouvent par là immédiatement incorporés et ils constituent un corps politique où la majorité possède le droit d'agir et d'obliger les autres. Car lorsqu'un certain nombre d'hommes ont, grâce au consentement de chaque individu, formé une communauté, ils ont par là même fait de cette communauté un corps, doté d'un pouvoir d'agir en tant que corps, ce qui n'est possible que par la volonté et la décision de la majorité. Car ce qui fait agir une communauté quelconque, ce ne peut être que le consentement des individus qui la composent. Et puisqu'il est nécessaire à ce qui constitue un corps de se mouvoir dans une seule direction à la fois, il est nécessaire que ce corps se meuve dans la direction où l'emporte la force la plus grande, c'est-à-dire le consentement de la majorité. Dans le cas contraire, il est impossible qu'il agisse ou qu'il continue de former un corps ou une communauté, ce que la volonté de chaque individu qui s'y était joint avait pourtant voulu qu'il soit. Ainsi, chacun est obligé, par ce consentement, de se soumettre à la majorité. La raison pour laquelle les hommes entrent en société, c'est la préservation de leur propriété. Dès lors, chaque fois que les législateurs tentent de s'emparer de la propriété du peuple ou de la détruire, chaque fois qu'ils tentent de le réduire en esclavage en lui imposant un pouvoir arbitraire, ils se mettent eux-mêmes dans un état de guerre avec le peuple. De ce fait, ce dernier est désormais relevé de son devoir d'obéissance, et il est libre de recourir au commun remède dont Dieu a pourvu tous les hommes contre la force et la violence. Donc, chaque fois que les membres du législatif tentent, par ambition, crainte, folie ou corruption, de s'emparer, pour eux-mêmes ou pour d'autres, d'un pouvoir absolu sur les vies, les libertés et les biens du peuple, ils perdent ainsi, en trahissant leur mission, le pouvoir que le peuple leur avait remis dans un tout autre but. Ce pouvoir revient alors au peuple, qui a le droit de reprendre sa liberté première et de pourvoir, par l'établissement d'un nouveau législatif, à sa propre sauvegarde et à sa propre sûreté, qui sont la fin pour laquelle on est entré en société. Ce que je viens de dire ici à propos de législatif en général vaut également pour le détenteur du pouvoir exécutif suprême.
Donc droit de résistance tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif, Jean-Fabien Spitz. L'État, en somme, pour Locke, sert à me protéger, protéger mes libertés. Je me soumets tant que la loi de la majorité que j'accepte n'est pas vécue par moi comme une souffrance scandaleuse. Et si c'est le cas, je sors du pacte. C'est ça l'individu lockien dans l'État civil ?
Oui, alors là aussi c'est très compliqué parce que ça engage un problème d'interprétation du mot « peuple »,« people » en anglais. Parce qu'il semble que ce que Locke a voulu dire, très clairement, et il me semble que c'est l'interprétation correcte, c'est lorsque les pouvoirs institués auxquels on a confié la mission de protéger nos libertés nous paraissent, à nous, individus, agir en contradiction avec la mission qui leur a été confiée. Nous avons le droit, personnellement, en tant qu'individu, de réserver notre obéissance, de la retirer, de dire « je n'obéis plus car ça n'est pas pour cette fin que j'ai élu ou constitué un pouvoir civil ». Chaque individu réfléchit pour lui-même à cette question et la résout pour lui-même. Et s'il se trouve que un très grand nombre de gens sont en accord sur le fait que le pouvoir agit en contradiction avec la mission qui lui a été confiée, alors il y a une résistance effective. Mais ce que Locke n'a pas voulu dire, c'est que lorsque celui à qui la mission de confiance a été confiée trahit cette mission, le peuple récupère le pouvoir en tant que corps constitué. Non, ce sont les individus qui récupèrent individuellement le pouvoir.
Oui.
C'est la dimension profondément individualiste qui rejette l'idée que le corps est souverain sur ses membres. Le corps n'est jamais souverain sur ses membres. Et le problème, c'est que en anglais, le mot « people » s'accorde au pluriel. Et donc, il faudrait, si on était très très rigoureux, il faudrait traduire en français par « les gens » ou « les individus résistent ». Mais alors, ça laisserait de côté la notion « le peuple », qui évidemment a une connotation très importante. Donc on est coincé, si j'ose dire, on est obligé de traduire par le peuple, suggérant de façon un peu subreptice mais fausse que celui qui récupère l'autorité en cas de dissolution du pouvoir qui trahit sa mission de confiance, c'est un corps constitué. Non, c'est pas un corps constitué, c'est le peuple compris distributivement et pas collectivement. Le peuple compris comme un ensemble d'individus juxtaposés dont chacun est à la disposition de sa propre raison.
Un des problèmes au chapitre 19 sur le droit de résistance, c'est que le droit de résistance, c'est que Locke dit aussi qu'un peuple, alors les gens, ça met du temps avant de résister. Ça souffre longtemps. Ce qui est d'ailleurs assez beau, je trouve, comme réflexion.
Oui, c'est évidemment, la doctrine lockienne a immédiatement été lue comme une doctrine d'anarchie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gens ont le droit de résister au pouvoir. Locke dit non, soyons sérieux, les gens ne résistent pas par plaisir. Ouais. Ils résistent quand il est manifeste que le pouvoir les conduit dans une direction qui n'est pas celle qu'ils veulent. Et c'était manifeste dans le cas de Jacques II, qui allait les conduire sur la route de l'absolutisme catholique, c'est-à-dire heurter leur conscience, martyriser leur intimité. Alors là, c'est manifeste que si on veut convertir de force les gens au catholicisme, c'est plus la mission de confiance qui a été confiée. Donc Locke insiste sur cette idée que nous sommes des êtres raisonnables, nous sommes capables de reconnaître de petites violations qui sont tolérables, disons, et puis des violations majeures, continues. Locke dirait continue, répété, manifeste, qui trahissent le fait que on veut nous entraîner dans une direction qui n'est absolument pas celle de nos intérêts, ni celle de la loi de nature. Et donc, à ce moment-là, la résistance devient possible. Et c'était le cas, dit Locke, au moment de la crise de l'exclusion, où le peuple anglais aurait été fondé à se lever en masse pour dire nous ne voulons pas de la succession de Jacques II au trône, car ce monarque n'est pas celui à qui nous voulons confier la mission de protéger nos vies et nos libertés.
Merci beaucoup de revenir à la fin de l'émission à ce qu'il a ouverte. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ce sera hélas le dernier mot, Vincent Valentin, à propos de ce droit de sortie, au fond, de l'individu, lorsque c'est insupportable ce que le pouvoir politique lui impose.
Les mécanismes de droit de sortie ne sont pas pensés. D'ailleurs, même le Conseil constitutionnel français reconnaît la constitutionnalité du droit de résistance à l'oppression, mais évidemment, dans un principe purement symbolique, on ne peut pas saisir un tribunal pour...
Bon, pour dire, oui, j'ai le droit de résister. Il y a quelque chose de contradictoire. Voilà.
Et donc, je pense que ce qui est important, c'est le principe qui est qu'en gros, que les gens n'ont pas besoin de l'État pour savoir ce qui est juste. Et ça, c'est une inversion de Hobbes. Vous voyez la phrase de Hobbes qui dit que ce n'est pas la vérité, mais l'autorité qui fait la force de la loi.
Oui.
Voilà. Et donc, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi chez Hobbes avant l'intervention du souverain. C'est tout l'inverse chez Locke. Chez Locke, l'institution politique ne dit pas le droit, elle le fait respecter. C'est tout. Et donc, dès qu'elle cesse de le faire respecter tel que ce droit existe dans une conscience commune de la justice, eh bien, on peut désobéir, quel que soit le... Bon, ben, c'est ce qu'a dit Jean-Fabien Spitz.
On doit désobéir.
Et on doit même désobéir, oui, parce que la loi naturelle est posée par Dieu, et donc, il y a un devoir de le faire.
Et ça, les libéraux, plus extrêmes que lui, ou tout aussi modérés, parce que Locke, c'est quand même un libéral modéré, c'est pas pour rien qu'on saisit en lui aussi une dimension républicaine, je pense pas que tous les libéraux seraient d'accord. Ils sont tous quand même bluffés, quoi. Il y a quelque chose à la fin du XVIIe qui se passe dans ce dernier chapitre du deuxième traité qui va ouvrir une tradition de droit à être en hostilité avec le pouvoir et ce qu'il nous fait.
Oui, bien sûr. L'État est au service des droits des individus. Il est au service de la loi naturelle. Il n'est pas là pour faire autre chose. Donc, on a le droit de résister dès que l'État sort de son domaine de compétences naturelles, on pourrait dire, en évoquant la loi naturelle, quoi.
Alors, il nous reste quand même un tout petit moment pour revenir à notre question de la série. À quoi sert l'État? Quand même si on résiste, Jean-Fabien Spitz, pour Locke, il faudra revenir à l'état de nature, mais le but de l'état de la... Enfin, la situation de l'état de nature exige que nous refassions un nouveau pouvoir civil après. On ne peut pas rester dans l'état de nature. Ça n'est pas très agréable, comme nous l'avons dit au début.
Non, mais ça, c'est, je pense que Locke n'a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire la condition civile est préférable à la condition naturelle, précisément parce que dans la condition naturelle, il le dit explicitement, il y a des choses essentielles qui manquent. Il manque une loi stable et reconnue, il manque un arbitre impartial, ouais. Il manque un pouvoir d'exécution. Donc, nous ferons tous les efforts possibles et imaginables pour instituer ces trois pouvoirs qui nous sont indispensables, mais en même temps, pour les maintenir dans le droit chemin, si j'ose dire. C'est-à-dire pour faire en sorte, prendre toutes les dispositions possibles. Et c'est pour ça que l'avenir du constitutionnalisme est très important à partir de Locke. Prendre toutes les dispositions possibles pour empêcher les pouvoirs constitués, dont nous avons absolument besoin,
oui.
De dévier de la route qui leur est assignée, de la mission qui leur est confiée. Et donc, un État libre qui protège les libertés, c'est un État dans lequel les pouvoirs sont sous la surveillance constante, soit des citoyens, des gouvernés, oui. Soit d'institutions prévues à cet effet, pour comment dire surveiller les gouvernants. La question ensuite, c'est qui surveille ceux qui surveillent.
Voilà. Et malheureusement, il nous faut maintenant arrêter. Je vous remercie vraiment. Je trouve que cette discussion était très précise et c'est important sur des auteurs comme Locke. Merci Jean-Fabien Spitz et Vincent Valentin. Je vous propose d'écouter maintenant la chronique de Frédéric Worms qui s'intéresse cette semaine à l'apprentissage. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi tout ne s'apprend-il pas ? La révolution actuelle de l'apprentissage comporte plus d'une conséquence, plus d'un mystère, plus d'un effet qui nous sidère aujourd'hui. En effet, on est sidéré que des machines soient d'abord susceptibles d'apprentissage, j'allais dire, tout court. Ce qui relève de l'apprentissage, en effet, ce n'est pas seulement l'accumulation d'un savoir, même sa mise à disposition numérique, comme dans les encyclopédies numériques jusqu'ici, même la reproduction d'opérations déjà faites par les humains, mais faites plus vite par les machines. Ce qui relève de l'apprentissage, c'est la capacité à produire du nouveau avec de l'ancien, à faire quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. J'apprends une technique que je ne maîtrisais pas avant, la cuisine, la peinture ou un sport. Le sport étant d'ailleurs l'exemple typique de tous les apprentissages qui deviennent des habitudes. D'ailleurs, je joue de mieux en mieux quand j'oublie que j'apprends, quand je n'apprends plus, quand j'ai appris, quand c'est acquis en quelque sorte. Mais apprendre, c'est la capacité à faire du nouveau avec de l'ancien. Cela suppose donc une opération qui n'est pas magique, mais qui suppose une subjectivité. Quelqu'un qui n'est pas seulement le réceptacle d'un savoir antérieur, mais le producteur d'un savoir nouveau. Ainsi, les machines ont-elles quelque chose de fascinant parce qu'elles arrivent à faire du nouveau avec de l'ancien. Mais les questions que se posent les êtres humains relèvent des limites de l'apprentissage. Si l'apprentissage est en effet désormais possible par des machines, la question de la spécificité de l'humain semble reculer d'un cran. Elle n'est plus de savoir si les humains sont ceux qui apprennent, et même qui apprennent à apprendre, comme le disent les pédagogues traditionnellement, mais de savoir si tout dans la connaissance humaine, dans l'expérience de la nouveauté, dans la découverte, dans la science et dans la vie, est-ce que tout relève d'un apprentissage finalement imitable par des machines complexes qui sont en effet apprenantes dans la mesure où, avec un certain nombre de données qu'on leur donne et un certain nombre de calculs qu'elles sont capables de faire toutes seules, elles produisent elles aussi du nouveau, elles progressent, elles vont de mieux en mieux prédire ce que va être la prochaine phrase, par exemple de cette chronique. Si on leur mettait toutes les chroniques du pourquoi, du comment, sans doute arriveraient-elles à en faire. Pourquoi alors résistons-nous intimement à cette réduction de l'apprentissage à la production du nouveau avec de l'ancien? Il y a traditionnellement deux objections majeures qui font qu'il y a quelque chose dans notre pensée qui va même au-delà de l'apprentissage. Cette dimension, c'est d'abord, comme le disait Bergson, la dimension de la création. Apprendre, en premier sens du terme, c'est très profond. Il n'y a aucun mépris, au contraire, à avoir envers l'apprentissage. L'apprentissage technique, d'ailleurs, qui est lui-même créateur et pas seulement répétitif. Mais produire du nouveau radical, produire un nouveau qui n'est pas seulement une combinaison de l'ancien, ce n'est pas seulement apprendre, c'est justement créer. Pour cela, il faut avoir tout appris. Mais encore faut-il créer. Par exemple, eh bien oui, le très très grand joueur de foot ou de tennis, il n'a pas seulement appris à faire des très bonnes passes techniques, il fait tout à coup la passe géniale. C'est Zidane à la finale du la Coupe du Monde 98 qui a tant marqué certaines générations ou bien d'autres. Il y a quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est le génie. Mais il y a aussi quelque chose qui ne s'apprend peut-être pas, c'est la capacité à retrouver par soi-même les données de la connaissance. C'est pourquoi Platon disait que le jeune esclave dans le Ménon, on ne lui apprend pas de l'extérieur les mathématiques. Socrate lui pose des questions, mais c'est lui qui retrouve tout seul les mathématiques. Alors il y a peut-être quelque chose dans l'apprentissage qui relève de la création absolue des humains ou de leur participation à la vérité.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Mineta Djawara et merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission comme toutes les autres.